Philippe Diribarne, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone. Donc, nous allons parler ensemble de votre dernier livre, L'épreuve des différences. C'est une enquête avec le groupe Lafarge. Alors, ma première question, est-ce que c'est une enquête que vous avez menée vous-même, personnellement, sur le terrain ?
J'ai fait une partie du terrain. Disons qu'il y a le travail de terrain dont j'étais essentiellement en Chine et en Jordanie. Donc j'ai fait le travail en Chine. Quelqu'un qui travaille avec moi a fait le travail en Jordanie. Et puis j'ai fait moi-même toute une partie qui a consisté à travailler sur des tests, des statistiques et des choses comme ça. Donc ça c'est une... Oui, j'ai fait ça moi-même. Et disons la partie jordanienne, les interviews ont été faites par quelqu'un d'autre, mais j'ai travaillé personnellement sur les entretiens.
Et donc il s'agit quand même d'un travail d'équipe.
Oui, un peu d'équipe. De toute façon, si vous voulez, ça s'inscrit, disons, de manière plus générale dans un travail mené par une équipe, oui, que j'anime, mais dans lequel il y a un ensemble de personnes, à la fois chercheurs, thésards, etc.
Alors, ma première question, c'est comment ça se passe entre une entreprise Lafarge, une multinationale, comment ça se passe entre vous et cette entreprise, entre votre groupe de recherche et l'entreprise ? Est-ce qu'il y a un contrat ?
En fait, là, ça a été plutôt une série, disons, d'opérations. Lafarge, une entreprise, disons, plutôt humaniste, dans le paysage, disons, des entreprises françaises. Donc il y avait le souci de pas seulement d'émettre des principes d'action, enfin comme font beaucoup d'entreprises, mais avait le souci que ça serve réellement à quelque chose dans le fonctionnement dans le fonctionnement concret. Et qui du coup se demandait comment, disons, une espèce de vision d'une bonne manière de fonctionner pour une entreprise, qui était au départ quand même assez franco-américaine, hein, donc marquée par des perspectives franco-américaines, comment ça pouvait être reçu dans des pays plus lointains, et en particulier, disons, la Chine, dans laquelle Lafarge est très, très implantée. Enfin, il y a 20 000 personnes qui travaillent pour Lafarge en Chine. Et donc, personne qui travaille avec moi, on fait d'abord une série de terrains, puis, disons, le sujet a rebondi quelque peu. Oui, disons, le cadre, c'est de trouver une sorte de rencontre, des points d'intérêt entre l'entreprise donc, qui est préoccupée de voir éclairci le terrain sur lequel elle travaille, et puis les chercheurs pour lesquels c'est une très très bonne chose d'avoir accès à ce type de terrain, d'avoir accès à de vraies questions et une grande ouverture de la part du personnel.
Est-ce que c'était une demande de l'entreprise ?
Pardon ?
Est-ce que c'était une demande de l'entreprise ce travail ou est-ce que c'est vous qui avez...
C'est une demande, effectivement, c'est une demande de l'entreprise, disons que... C'est une entreprise qu'on connaît depuis longtemps et effectivement il y a un intérêt de toute une série d'entreprises. Enfin, on a travaillé avec une partie non négligeable, disons, des entreprises du CAC 40. C'est vrai que cette question de la rencontre, de la diversité, des cultures, et en particulier maintenant que les entreprises ont des développements importants en Asie, où souvent elles n'étaient pas tellement, disons, auparavant, oui, amène, il me semble, de plus en plus les entreprises à se poser des questions de comment trouver des manières de s'adapter à cette diversité des contextes culturels.
Alors, le début de l'enquête, c'est sur un échange de différences de vocabulaire entre les USA et la France. Et ça nous indique tout de suite qu'il y a deux conceptions très différentes de la relation entre les personnes dans le travail, rien qu'avec ce souci de vocabulaire au sein même d'une même entreprise.
Oui, alors là, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise ne s'attendait pas du tout. Ça, c'est vraiment là une initiative tout à fait des chercheurs, enfin de moi-même. L'entreprise donc a fait un texte, donc décrivant une sorte de principe d'action. Et comme c'est une entreprise très très présente, disons française, mais très présente aux États-Unis, et en plus dont la majorité du personnel est maintenant anglophone, donc ils ont fait une version française et une version en anglais, disons une version plutôt américaine. Et l'entreprise avait le sentiment que c'était vraiment le même texte. Hein. Donc, du reste, les deux versions se correspondent phrase à phrase. Souvent, ce sont les mêmes mots. Du reste, la proximité de l'anglais et du français, enfin, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés. Or, en fait, quand on examine, si vous voulez, de manière vraiment détaillée les deux textes, on voit que la façon dont l'entreprise se met en scène ses relations avec la société en général, avec ses clients, avec ses actionnaires, avec son personnel, est très marquée côté version anglaise par une conception américaine de la vie en société et côté version française par une conception française de la vie en société. Je vais juste donner un tout petit exemple. Là où, parlant des rapports avec les clients, dans la version anglaise, on va dire « provide », « fournir », en quelque sorte. Dans la version française, on va dire « offrir ». Alors, ça peut sembler étrange, parce que, bien sûr, il n'est pas question que l'entreprise offre des produits à ses clients, au sens où elle ne leur ferait pas payer, disons, les clients le payent bien. Mais le fait de parler d'offrir est une manière, au fond, de mettre en évidence, finalement, un point sur lequel insiste l'entreprise, c'est le fait qu'elle va mettre à la disposition, en quelque sorte, de ses clients des produits nouveaux, des produits innovants, etc. Et en quelque sorte, au fond, cette partie, disons, de créative, elle est, en un certain sens, effectivement, offerte. Alors que la version anglaise va se situer vraiment dans une perspective commerciale et va dire fournie.
Et c'est là où, du coup, vous faites une conclusion qui rejoint vos nombreux travaux antérieurs. Je lis juste une phrase de votre conclusion. « Or, la conception que l'on a de tels rapports s'inscrit dans une vision globale de l'homme et de la société qui est éminemment culturelle. » Et là, on rejoint complètement vos anciens travaux. Est-ce que vous étiez surpris de trouver cette différence de traduction pour un même document de la même entreprise ?
Si vous voulez, j'avais jamais fait ce type d'analyse-là. Jusqu'à présent, on avait plutôt étudié des différences de fonctionnement, des différences entre usines, en particulier sur le terrain franco-américain. Et non, honnêtement, je pensais pas qu'à ce point, les textes même, et surtout des textes écrits par des gens qui étaient vraiment très largement bilingues, enfin les gens qui ont contrôlé sur l'établissement de ces textes, soit à ce point-là différent. Non, c'est vrai que c'était à la fois, disons, le type de différence qu'on a observé n'était pas étonnant, c'est-à-dire que dans la version française, j'ai bien retrouvé la France telle que j'avais pu travailler dessus à de multiples occasions. Dans la version américaine, j'ai bien retrouvé les États-Unis, mais je ne pensais pas effectivement qu'à ce point ça se traduirait dans la manière d'écrire, surtout quand on croit écrire la même chose.
Alors, ensuite, vous menez l'enquête en Chine, vous vous déplacez donc vous-même en Chine. Comment ça se passe ? Vous arrivez en Chine, vous êtes reçu par les dirigeants d'entreprise là-bas ?
Oui, c'est-à-dire comme ça se passe, mais toujours dans ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire que, bon, la fâche est un cimentier, donc c'est toute une série de cimenteries qui sont en plusieurs endroits, disons, en Chine. Donc là, j'étais, malheureusement, je ne parle pas chinois, c'est-à-dire j'étais avec un interprète, qui était un de mes anciens étudiants, qui avait fait une thèse avec moi, donc il connaissait bien le domaine, et qui parlait fort bien français. Et donc, nous avons été reçus au siège, puis ensuite nous sommes allés dans trois usines situées en trois endroits différents, une usine près de Pékin, deux usines près de Chongqing, et puis une usine dans le Sichuan, un peu plus loin que Chongqing. Puis voilà, donc dans ces usines, on fait des entretiens avec à la fois des cadres, des agents de maîtrise, du personnel ouvrier. Donc on enregistre tout ça, on revoit certains points de traduction ensuite à tête reposée, et puis on essaie de comprendre à travers tout ce qui est dit, au fond, ce qu'on de commun, quelles sont les sortes de visions implicites d'une bonne manière de vivre et de travailler ensemble qui transparaît à travers ce qui nous a été affirmé.
Est-ce que vous étiez familier, accoutumé à la Chine et à la culture de l'entreprise dans la Chine, ou est-ce que c'était une nouveauté pour vous?
La Chine, c'était une nouveauté. Actuellement, si vous voulez, avec notre équipe, on a travaillé dans une cinquantaine de pays différents. Si vous quand même, on a, et moi-même, je travaillais dans peut-être une quinzaine. Donc, ce qui fait quand même une bonne habitude d'aller dans des endroits différents, de savoir, de saisir à travers ce qui est dit d'apparemment très 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 technique ou très quotidien, disons qu'elles sont des choses plus profondes qui sont engagées. Mais j'avais fait des quelques voyages en Chine, mais j'avais pas fait, disons, de travail de terrain en Chine auparavant.
Est-ce que, par exemple, en lisant toute cette partie sur la Chine, j'ai beaucoup pensé à François Julien, aux travaux théoriques de François Julien. Est-ce que vous lisez ses écrits? Est-ce que vous les avez lus avant d'y aller?
J'ai pas lu. Je connais bien François Julien. Hein. On a eu cette occasion de parler de cela. J'ai pas lu avant, disons. J'en ai parlé avec lui. J'ai lu aussi, disons, après. Disons, François Julien s'est, disons, pas directement intéressé au fonctionnement des entreprises en Chine. Il s'est intéressé, disons, un peu, mais c'est pas le centre, si vous voulez, de son approche. Mais disons, ce que j'ai en tout cas observé et la façon dont il analysait la Chine, oui, sont tout à fait cohérentes. En particulier, par exemple, sur le fait que bon, la distinction assez forte on va faire chez nous entre, disons, un pouvoir politique et un pouvoir moral. Bon, en Chine, n'a pas vraiment de sens. On attend d'un pouvoir, disons, qu'on qualifierait de politique, en ce sens, disons, un pouvoir séculier, disons, un pouvoir d'entreprise, disons, en même temps, un pouvoir moral, qui fixe des règles morales. Bon. Ce qui fait du reste, peut-être paradoxalement, c'est une entreprise, les entreprises que l'on pourrait qualifier d'humanistes qu'il y a dans le monde occidental, qui dans le monde occidental peuvent être plus ou moins suspectes d'un mélange des genres, de trop se mêler de la vie des gens, etc., vont être au contraire extrêmement bien reçues dans un pays comme la Chine, dans lequel il y a cette attente que l'entreprise, de même que le pouvoir politique, se soucie à la fois soit un exemple de rectitude, soit un exemple de justice, etc. Enfin, donc, il y a une espèce d'attente, si vous voulez, d'un bon pouvoir qui rencontre très bien ce type d'entreprise.
Je vous posais la question avec François Julien, parce qu'effectivement, votre texte est très très différent. Vous êtes dans le concret de l'action, dans l'action que fait l'entreprise, dans la relation entre les hommes au sein de l'entreprise. Vous êtes directement dans le concret, alors que les travaux de François Julien m'apparaissent souvent théoriques et souvent abstraits, du coup. Et c'était pour dire, vous faites œuvre aussi intellectuelle, œuvre de pensée, œuvre quelque part qui pourrait presque être proche de la philosophie, mais vous êtes dans le concret de l'action.
Disons que François Julien, au fond, part des textes, par des classiques pour aller vers l'action, et qu'en fait, moi plutôt, je pars de l'action, mais pour aller vers, comme vous dites, vers les textes, et donc vers une perspective plus de philosophie politique. C'est vrai que, par exemple, il y a un certain nombre de choses qu'on observe dans une vie chinoise contemporaine, bon, pour lesquels, bon, le fait de lire les classiques chinois aide quand même à comprendre. Enfin, ce qui ne veut pas dire du tout que, selon une vision simpliste, les Chinois seraient confucéens, au sens qu'ils appliqueraient les préceptes de Confucius, etc. C'est pas vrai du tout. Mais que quand même, le sens, la manière dont ils interprètent les situations, la vision qu'ils ont de ce qui serait bien, disons, dans l'idéal, etc., n'est quand même pas indépendant de ce qu'on va trouver chez les classiques. Et donc, enfin, pour ceux qui partent des classiques et qui vont vers le concret, en partant du concret et en allant vers une réflexion plus de sagesse ou philosophique qu'on trouve chez les classiques, on peut très bien se rencontrer.
Du coup, votre méthode, c'est presque la méthode inverse de François Julien.
Bah, c'est-à-dire, oui, le point de départ, oui, le point de départ est se situe à l'autre, disons, à l'autre extrémité du spectre. Mais pour comprendre ce qu'on observe, disons, dans ces sociétés qui ont eu de grandes élaborations philosophiques, de grands penseurs, etc., c'est tout à fait utile de s'intéresser aussi à cela. C'est-à-dire. En fait, mais quelquefois, on a tendance à dire que font à séparer d'un côté des sciences sociales qui vont s'intéresser à la vie courante d'aujourd'hui, et puis une réflexion de philosophie politique qui va s'intéresser aux penseurs, alors qu'en fait, dans une société, ce sont bien les mêmes hommes dont parle, disons, les mêmes hommes qui sont à l'œuvre dans un fonctionnement concret, et les mêmes hommes dont on parle dans les réflexions de philosophie politique.
Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait une manière d'interpréter les situations propres aux Chinois. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de manière d'interpréter une situation qui s'est produite radicalement différente entre un personnel chinois et un personnel occidental ?
Tout à fait. Par exemple, je vous dis un petite chose. Donc l'entreprise a émis des principes, comme je disais, et donc je demandais à un directeur d'usine s'il pouvait lui arriver de prendre ces principes et d'aller voir son directeur général et de lui dire, mais est-ce que vous pouvez dire à votre directeur général, voyez, dans les principes vous écrivez ça, et puis en fait vous ne le faites pas. Alors ça, mon interlocuteur a été absolument effaré. Je lui aurais demandé s'il pouvait se promener tout nu dans la rue, je pense que ça n'aurait pas été pire. Donc, voilà. Alors, il y a une interprétation qui serait une interprétation occidentale, hein, qui serait du reste confortée par la vision Montesquieu, etc., le despotisme oriental, dans lequel on interpréterait ça, disons, dans le registre de la soumission, dont de non-démocratie, etc. Donc, en fait, quand on creuse, on voit qu'en fait, les Chinois ne sont pas du tout aussi soumis que ça au pouvoir. Mais qu'il faut comprendre plutôt cette réaction dans le registre de l'harmonie, disons, que de celui de la soumission. C'est-à-dire qu'il est extrêmement attendu du supérieur qui prenne en compte la situation, les avis, etc., des subordonnés. Mais il est attendu que ce soit lui qui la prenne en compte, qui comprenne à demi-mot. Enfin, j'ai eu d'autres cas dans lesquels on voyait une personne dire, non, jamais j'aurais dit à mon supérieur que je veux une promotion, par exemple, mais il doit comprendre. Il doit comprendre. Et du reste, s'il ne comprend pas, je partirai. Donc, on voit que le même comportement demande à être compris dans une autre, en fonction d'autres repères que les repères que nous tendons spontanément à utiliser pour les comprendre. Et c'est très très fort en matière de fonctionnement hiérarchique. Je crois du reste que c'est des raisons pour lesquelles on a tellement de mal en dehors de l'entreprise, c'est à comprendre la société chinoise. Enfin, je vois comment même des Chinois très 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 connaisseurs de l'Occident, qui ont passé des années et des années en Occident, nous reprochent de ne pas comprendre leur pays.
Ce livre, du coup, pour terminer l'entretien, est-ce que ça a fait l'objet d'un rapport qui a été remis à l'entreprise ? C'est-à-dire dans quelle relation vous êtes placé vis-à-vis de l'entreprise entre ce livre, les travaux que vous avez effectués pour Lafarge ?
Bien, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une séquence, si vous voulez, de choses. Hein. Au départ, il y a eu un premier travail qui était une première enquête, donc en Jordanie et en Malaisie, qui n'a pas été reprise dans le livre parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Puis il y a eu une deuxième enquête en Chine. Puis il y a eu un travail de comparaison donc de ces textes français et américains. Puis il y a eu un travail sur une, une enquête quantitative qui a été faite au sein de l'entreprise. Donc il y a eu toute une série de rapports qui ont été effectivement remis à l'entreprise. Et puis, disons, tout ça a été repris dans le livre, synthétisé, repris, retravaillé. Enfin voilà, un livre c'est autre chose quand même qu'une série de rapports. Et donc l'entreprise elle-même s'est intéressée au livre. Enfin du reste, c'est paru avec un avant-propos du président. Et donc l'entreprise a à la fois, acheté pas mal d'exemplaires du livre et puis est en train de sponsoriser la traduction en anglais et en chinois à destination de son personnel à la fois anglophone et chinois. Donc l'entreprise est intéressée aussi par le livre.
Ma dernière question, c'est quelle étape représente ce livre, ce travail dans vos recherches générales? Bien entendu, tout cela est lié, mais est-ce que ce livre représente une étape ou est-ce plus un détail dans vos travaux de recherche, en tout cas dans vos publications?
C'est quelque chose, je crois. Non, c'est une étape importante parce que une grande question qui se pose dans ces analyses, disons tournant autour des différences culturelles, est la question de la rencontre de, on pourrait appeler, l'universel et du culturel. Quel rapport il y a, qu'est-ce qu'il y a de commun, en quoi des gens de diverses cultures peuvent avoir des choses en commun, et comment c'est ce qui est commun va se décliner dans diverses cultures. Alors, c'est une question très importante qui concerne bien au-delà de l'entreprise, hein, qui concerne aussi bien les diverses versions de la démocratie qu'on peut rencontrer de par le monde, la compréhension des droits de l'homme de par le monde, la façon dont les religions peuvent prendre sens dans diverses parties du monde, etc. Et donc, disons, ce travail fait à partir de choses qui sont limitées, des principes d'une entreprise, mais quand même qui se voulait concerner l'ensemble du monde. Et voyant comment c'est reçu, comment ça prend sens et comment ça agit dans diverses parties du monde, c'est effectivement un pas important dans la compréhension de ces rapports entre ce qui concerne, disons, toute l'humanité et la façon dont c'est reçu en chaque endroit.
Je vous posais la question parce que moi, ce livre m'a beaucoup intrigué. Je l'ai trouvé très original et j'ai trouvé que généralement, ce type de livre n'est pas publié, enfin sur ce sujet-là, dans le domaine de l'entreprise, n'est pas publié en livre, que ça fait plutôt l'objet de rapports ou de travaux universitaires, mais pas de publication comme ça, enfin aux éditions du Seuil, dans la collection La couleur des idées.
Bah, écoutez, d'un point de vue universitaire, aussi, il y a eu à la fois, disons, d'abord des articles de recherche, hein, donc par exemple la comparaison franco-américaine sur les textes est parue dans une revue, Langage et Société, qui est une revue de linguistique. Enfin, donc ça intéresse, ça intéresse le monde universitaire.
Mais peut-être pas un livre comme ça qu'on peut trouver dans toutes les librairies.
Oui, tout à fait. Souvent, si vous voulez, aussi, quelquefois, on peut dire, les travaux sur l'entreprise, restent peut-être un peu trop, disons, descriptifs, ou, à ce moment-là, ne justifie pas, peut-être, d'être transformé en livre. Enfin, là, c'est vrai que le passage, disons, de style rapport, tel que vous l'évoquiez, au fait de faire un vrai livre, avec tout l'aspect de réflexion, de confrontation à des idées, etc., que ça suppose, oui, c'est quand même un travail très important.
Je vous remercie beaucoup, Philippe Deribarne, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.